Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Déclic. Nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans cet épisode du Déclic, nous avons invité Marie à notre micro. Marie, nous l'avons rencontrée via notre appel à témoignage publié début mai dans lequel nous cherchions à entrer en contact avec une personne pour qui le confinement aurait provoqué un déclic. Et Marie est justement une de ces personnes-là. Après des études et un début de carrière d'économiste plutôt brillant, Marie a décidé de multiplier les expériences en entreprise, en France, en Irlande ou encore au Cambodge. Elle s'est ensuite réorientée plusieurs fois, elle a été consultante, journaliste, chargée de production ou encore vendeuse de confiture et cultivatrice de goyaves, pensant que la clé du bonheur se trouvait au bout de ce chemin, semé de quelques embûches. Puis est venu le confinement, qui a fait voler en éclats ses certitudes et lui a permis de voir ce qu'elle voulait vraiment faire, et surtout de découvrir qu'elle n'était pas si légitime que ça à monter sa propre boîte. Marie a donc commencé à concrétiser son projet, monter son cabinet de conseil et de gestion de projet en agriculture et agroalimentaire durable pour accompagner des petits producteurs, mais aussi des grands groupes qui souhaiteraient nourrir la population de façon plus saine. Salut Marie!
Salut!
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ah bah écoute, ça va super, je suis ravie de t'avoir dans le déclic, merci beaucoup.
Je suis ravie d'être là, c'est super cool, merci.
Ah bah avec grand plaisir. Alors... Du coup, je disais, donc Marie, comme on en a discuté, évidemment, un déclic, ça se fait dans un certain contexte. Donc, on va revenir un petit peu sur, sur tes débuts. Où est-ce que tu as grandi? D'où est-ce que tu viens?
Alors moi, j'ai grandi dans le Morvan.
Ouais.
C'est une zone de colline au milieu de la Bourgogne. J'ai grandi précisément dans un petit village de 253 habitants.
D'accord.
Et après, j'ai déménagé dans un autre village où il n'y avait plus que 20 habitants.
Ah oui.
Après, j'ai déménagé dans une autre ville qui est assez de petite taille, qui s'appelle Nevers.
Ouais.
Et après, à 18 ans, je débarquais à Paris.
D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Et malheureusement, j'ai une voix de casserole. et puis ensuite, je voulais être vétérinaire, parce que j'aimais bien les petits chiens et les poneys.
Mm-hmm.
Puis pareil, j'aimais pas la physique, donc j'ai
ouais.
dû changer. Et à 17 ans, je voulais être trader, parce que je voulais gagner plein d'argent pour le donner à tous les pauvres du monde. Comme ça, ils allaient tous être riches.
C'est joli.
C'est ça. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais pas assez les traders pour vivre avec eux.
Oui, et puis que ça peut être un monde où malheureusement tu peux oublier les pauvres.
C'est un peu ça.
Et du coup, qu'est-ce que t'as fait comme étude?
Alors, j'ai fait une licence d'économie, un master d'économie à Dublin. Et après, j'ai fait un master en stratégie.
D'accord.
Dans une école civilo-militaire.
D'accord. Mais là, c'est une question à part qui n'était pas sur ma liste. Mais t'as toujours voulu en fait être dans les chiffres? C'est quelque chose qui t'a toujours attiré?
J'ai toujours aimé les chiffres et surtout en 2008 j'étais en seconde.
D'accord.
Et j'avais des cours de sciences éco au lycée et ça m'a vraiment passionné de comprendre ce dont on parlait à la télé, comment ça fonctionnait, et en fait c'est de là que c'est parti, vraiment l'idée de comprendre comment le monde fonctionnait et d'avoir un impact dedans.
D'accord, mais comment ça s'est passé tes études? Est-ce que t'as fait tout d'un coup ou ça s'est bien, enfin
ça s'est plutôt bien passé?
Ouais.
J'ai tout fait d'un coup. À partir de mes 21 ans, j'ai bossé en même temps que mes études dans des grosses boîtes.
D'accord.
Et non, c'est sans embûche.
Et justement, tu disais, tu nous as dit, quand on a préparé ce déclic ensemble, que tu as été quelques temps économiste pour de grands groupes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces expériences?
J'ai bossé, après mon master en Irlande, j'ai travaillé pour des gros cabinets de conseil, que je ne citerai pas, mais... Et en fait, j'ai bossé pour des gros cabinets qui travaillaient pour des très grandes boîtes.
Ouais.
Et ça a été hyper formateur de voir comment ça fonctionnait, quels étaient les enjeux globaux, quels étaient les enjeux économiques au niveau national, mais puis à l'international, au niveau européen, au niveau mondial. Et en fait, on n'a pas du tout conscience de ces intérêts-là quand on
Bien
est
sûr.
Un consommateur lambda. Et ça m'a poussée à me dire que moi, je voulais avoir un impact au niveau local, notamment dans la région où j'ai grandi et en France. Mais pour avoir un vrai impact, c'était super important de comprendre ce qui se passait au niveau global.
Mmh. Mais qu'est-ce que tu en retiens de bon de tout ça?
à part ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as des anecdotes particulières de cette période-là?
J'en retiens ce que j'ai envie de faire maintenant, parce que la première mission que j'ai faite qui m'a vraiment passionnée, j'ai fait une analyse du marché de la bière en Irlande, parce que je bossais à Dublin.
Génial. c'est un rêve, quoi.
C'était trop bien.
Il manquait plus que l'analyse du marché du whisky en Écosse après.
J'y pense.
Ah, mais c'est vraiment, c'est très cliché, moi j'adore. Hein,
exactement. Et en fait, ça m'avait vraiment intéressée parce que du coup, quand on est jeune et qu'on est étudiant dans un pays anglo-saxon, on boit beaucoup de bière. Et du coup, je voyais le côté marché, concurrence, marketing, enfin la totalité. Alors que moi, consommateur lambda, je choisissais juste ma pinte le soir au pub. Et c'est là où je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal de comprendre comment ça marche, pour ensuite faire des choix, et puis de connaître comment ça se passait, quel était l'envers du décor. Ça me permettait aussi de consommer plus responsable, et de savoir où je dépensais mon argent, et puis de dire à mes camarades et mes potes, écoutez, ça c'est peut-être mieux que ça, etc. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic de me dire, ok, j'ai vraiment envie de bosser dans le secteur de l'agro, parce que j'aime bien boire et j'aime bien manger.
Ouais, et après là, du peu, ça fait à peine 6 minutes qu'on parle, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as vraiment une volonté de comprendre le monde qui nous entoure, quoi. Parce que, en étant économiste, c'était pas forcément les chiffres qui t'attiraient, c'était surtout de savoir, en fait, comment les ficelles sont tirées, comment on s'y intéresse. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi, cette envie de comprendre.
Ça a toujours été dans ma personnalité de comprendre. Et en fait, je trouve que quand on comprend les choses, c'est moins grave. Mon père dit toujours que quand j'étais petite, je lui disais tout le temps, c'est pas grave, papa, quand il se passait quelque chose, parce que si on comprend, du coup, on a une explication. Donc, c'est vachement plus simple de gérer le problème. Alors que si on ne comprend pas et qu'on prend les choses forcément plus à cœur parce qu'on n'a pas l'explication véridique, c'est tout de suite plus dur.
J'aime beaucoup cette explication. En préparant cette interview, tu nous as dit que tu avais essuyé quelques mauvaises expériences professionnelles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Quand j'ai commencé à travailler à la fin de mes études, j'ai bossé pour un grand groupe. Et puis ensuite, j'ai fait un peu de journalisme aussi. J'ai fait plein de métiers différents. Et j'étais confrontée à des gens qui avaient 15-20 ans de plus que moi, parfois plus, et qui trouvaient que c'était pas simple d'être une femme économiste et une femme consultante en stratégie, et qui plus est, qui avait moins de 25 ans à l'époque. Et ils étaient très critiques à ce côté-là, et j'entendais souvent que dans tous les cas, je manquais d'expérience, que mon avis n'était pas assez construit pour valoir quelque chose, et que c'était pas simple d'être une femme dans ce métier-là, et qu'en fait, c'était négatif d'être une femme. Et qu'ils critiquaient vraiment juste ce fait que je sois une femme et que j'ai envie d'être à des postes qui sont stratégiques. Et ça m'a pas mal marquée à l'époque, vraiment parfois déstabilisée.
Bien sûr.
Et en fait, avec le recul, on se dit que c'est n'importe quoi.
Bah évidemment, t'as exact, les mecs qui pensent que s'il n'y a pas assez de meufs à des sphères de pouvoir, c'est uniquement à cause des meufs. Spoiler alert, absolument pas. Pardon, alors c'était mon aparté féminisme. Et en fait, donc, t'as commencé à aborder un petit peu le sujet, mais du coup, je suppose que ces mauvaises expériences et ces remarques qui sont complètement injustes, ça a un peu ébranlé ta confiance en toi, non?
On en aurait parlé il y a 2 ans. Je t'aurais dit grave. Parce que je manquais de confiance en moi, j'avais l'impression que je savais rien faire, que en plus mon boulot c'est de faire globalement d'expliquer à des gens qui prennent des décisions comment prendre leurs décisions. Donc je faisais globalement beaucoup de PowerPoint et de temps en temps des présentations. Et je me sentais pas du tout légitime pour faire ce boulot, j'avais l'impression de pas mériter ma place, d'être montée trop vite et de pas être au bon endroit au bon moment. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait un premier choix de vie qui sortait totalement des sentiers battus. J'ai fait 18 heures de vol pour aller à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et là, je me suis retrouvée consultante en stratégie, comme d'hab, mais aussi à diriger une filiale d'agroalimentaire d'une boîte qui faisait des confitures bio et des goyaves bio aussi.
Bon.
Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris que tout ce qu'on apprend dans les livres, à l'école, tout ça, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut pas dire grand-chose finalement. Et que l'instinct qu'on a, le fait d'être une bonne personne, le fait d'avoir des vraies qualités humaines, le fait d'être intelligent, pas au sens d'avoir fait HEC, hein, mais au sens d'avoir conscience des choses, c'était ça qui était le plus important et c'était ça qui permettait aux équipes qu'on dirige d'aller plus loin. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, tout ce qu'on m'avait dit avant, c'était du blabla et que c'était pas la vraie vie. Et que moi, ce que j'avais appris sur le terrain, c'était vraiment que je pouvais le faire, Et je suis rentrée du Cambodge il y a 6 mois en me disant, ok, j'ai compris, dans un pays en voie de développement où il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité, les enfants vont pas à l'école, enfin c'est pas du tout notre monde à nous. Et c'est très compliqué de s'intégrer là-bas au début, ça peut faire peur. Mmh. Et j'étais très très heureuse à Phnom Penh. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, si je peux être heureuse et avoir trouvé ma place dans un monde pareil, je rentre chez moi et je fais la même chose.
Et du coup, donc, en fait, c'est ce dont tu parlais. Tu nous as parlé du fait que tu ne te sentais pas légitime, notamment quand tu étais en freelance, ou même pour monter ta boîte. Est-ce que c'est à cause de tout ça ou est-ce que maintenant, ça a changé ?
Quand j'étais en freelance au début, en rentrant du Cambodge, je ne me sentais pas légitime parce que travailler dans un pays développé, c'est pas la même chose que travailler dans un pays en voie de développement. Mmh. Et j'avais l'impression que je pouvais pas demander beaucoup d'argent en étant en freelance, mmh. que j'étais pas forcément légitime de postuler à certains types de missions. Et puis finalement, j'ai eu la chance de tomber sur des donneurs d'ordre de freelance qui étaient hyper cool, hyper compréhensifs et vraiment positifs. Et au fur et à mesure des expériences et de rencontrer les personnes, il y a vraiment eu quelque chose de positif qui s'est passé et qui m'a permis d'avoir plus de légitimité. Et puis pendant le confinement, j'ai postulé encore parce que je ne me sentais pas légitime d'être mmh. que en freelance, etc. Et en me disant qu'il fallait encore rentrer dans les clous, j'ai postulé pour un job dans une boîte. Et à la fin des entretiens, la DG de la boîte m'appelle et me dit « Bon Marie, on veut travailler avec toi, mais un emploi traditionnel, c'est pas fait pour toi. C'est pas comme ça qu'on va maximiser ce que tu sais faire. Et c'est pas comme ça que tu seras heureuse, ça se sent. Donc, on va te proposer des missions de freelance différemment pour que toi, tu sois bien et que nous, on soit bien avec toi. »
Elle est super, cette nana.
C'était super. Et en fait, tout leur processus de recrutement, c'était basé sur des tests de personnalité.
Elle est géniale.
Et hyper poussée. Et j'ai trouvé ça, mais génial.
C'est trop, trop bien. En plus, ça devrait pas l'être, mais c'est assez rare pour le souligner, quoi. C'est trop bien.
Et en plus, elle m'a donné des contacts pour d'autres missions. Elle a été hyper présente pour moi. Enfin, vraiment quelqu'un qui avait du cœur et qui était là pour que les choses avancent positivement. Il n'y avait pas de matière d'ego, il n'y avait pas de matière de performance, on est juste sur... On est des humains, on doit collaborer ensemble, on a des objectifs communs, et ben on va trouver la solution pour que ça marche bien.
C'est trop bien. Et du coup, on va bientôt venir à ton déclic. Où est-ce que tu étais juste avant le confinement? Où est-ce que tu en étais professionnellement?
Alors, juste avant le confinement, je terminais une mission de freelance. J'ai terminé une mission le jeudi soir, et on a eu l'annonce du confinement le lundi. C'était à Paris.
Donc on va en venir justement à ce confinement qui a été le déclencheur pour toi de cette envie d'entreprendre. Où est-ce que t'as passé, enfin pas l'envie, mais en tout cas le fait de se lancer, où est-ce que t'as passé le confinement justement?
J'ai passé le confinement chez mon père à Nevers, là où j'étais au lycée, donc retour aux sources et à la vie familiale.
Et comme ça en plus t'avais un accès à un jardin, à la campagne, etc.
Tout à fait. Et à mon petit chien.
Ah, ça c'est chouette. Si en plus il y a un chien, c'est vraiment confinement bonus.
C'est le bonheur.
Et du coup, dans quel contexte tu l'as passé au niveau personnel? C'est-à-dire, est-ce que ça t'a stressé? Est-ce que tu étais plutôt sereine?
Alors, au début du confinement, j'étais surtout fatiguée parce que je suis rentrée du Cambodge il y a 6 mois. Et après, comme je suis un peu hyperactive, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, j'ai beaucoup travaillé. Et sans prendre le temps de me poser du tout après une expérience qui est assez dingue, du coup, j'étais vraiment fatiguée. Le premier mois, j'ai quasiment rien fait à part me reposer. Donc c'était plutôt chouette. Et puis ensuite ça faisait longtemps que je voulais prendre ce temps de réflexion, donc j'étais plutôt sereine. Ça faisait longtemps que je voulais le prendre, finalement. Merci le confinement, ça tombait à pic, même si c'est pas génial, quoi. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit j'ai ça dans les mains, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, je me lance et c'est le moment, quoi.
Et du coup, c'est ça que ça a déclenché en toi. C'était justement ma question d'après, c'est qu'est-ce que ça a déclenché en toi? Donc en fait, toi, cette idée de boîte, tu l'avais déjà, mais ça a été en fait le confinement. Pour toi, c'était le moment de te dire, bon, allez, si je le faisais, quoi.
Bah, exactement. Et puis en fait, en écoutant la radio, les médias, on parlait beaucoup du monde d'après, du fait que la planète nous avait envoyé un signe, qu'il était peut-être temps de se poser les bonnes questions, etc. Et en fait, moi, ces questions-là, je me les étais posées depuis longtemps, mais finalement, j'avais rien fait pour changer. Parce qu'à chaque fois, j'avais peur de ne pas prendre la bonne voie en termes de carrière, que j'avais peur de ne pas être assez indépendante. Le côté risque me faisait peur. Et puis là, en fait, d'être dans toute cette mouvance d'une transition de vie et d'un renouveau, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment.
C'est vrai qu'en fait, le confinement, ça a été un peu le coup de pied au cul pour beaucoup de personnes, quoi, parce que, enfin, je dis face à ça de façon très, très améliorative, hein. Je dis, enfin, justement, un coup de pied au cul, pour moi, c'est toujours une bonne solution, parce qu'en fait, parfois, tu te prends, moi, personnellement, je me suis lancée en étant freelance parce que, bah, j'ai pas continué dans la boîte dans laquelle j'étais avant, que moi, je voulais pas continuer et que eux voulaient pas m'embaucher non plus. Et du coup, ça a été mon coup de pied au cul de me dire, allez, vas-y. Mais du coup, je pense que j'ai l'impression que le confinement, ça a été effectivement plus d'une remise en question, un bon coup de pied aux fesses et un bon squash par les épaules pour se dire, allez, vas-y, quoi. Et cette idée de boîte, tu l'avais déjà avant le confinement, on en a parlé. Quand est-ce que ça a germé en toi? Ça date d'il y a longtemps?
Ça date, sincèrement, je pense depuis le début de la fac.
Ouais.
Déjà, avant, quand j'ai commencé mes études, ça faisait longtemps que j'apprenais finalement des méthodes de conseils qu'on met au service de très grosses entreprises. Et je me disais que si je pouvais apporter ce savoir-faire et ces connaissances-là à des petits acteurs, ça serait génial parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des gros cabinets et puis ils n'ont pas la culture d'internaliser ce genre de service. Et du coup, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, mais sans oser passer le pas. Et comme tu l'as dit, ouais, le confinement, ça a été un vrai coup de pied au cul en me disant, bon, ça suffit, j'ai pas envie de continuer de mener une vie qui me correspond pas et j'ai envie d'être alignée avec ce que moi j'ai envie au fond de moi. Du coup, go, quoi.
Mais alors, du coup, on en a un petit peu parlé pendant l'introduction, mais je pense que ce sera encore mieux si c'est toi qui nous fais la présentation. Qu'est-ce que c'est ta boîte, justement?
Alors, ma boîte, elle s'appelle Guava & Co.
Ouais.
C'est comme tu l'as dit dans l'introduction, j'étais cultivatrice de goyave à côté de Phnom Penh, au Cambodge. Et du coup, c'était mon surnom par mes colocataires parce que je rentrais à la maison avec des goyaves et du coup, je sentais la goyave.
C'est génial.
C'est mignon. Et du coup, Guava & Co, c'est l'idée de soutenir des producteurs et des industriels de l'agroalimentaire et de l'agriculture et de leur proposer des services de conseil en stratégie et en gestion de projet et de leur permettre d'externaliser des services qu'ils n'ont pas la capacité d'internaliser et de leur amener une autre culture de l'entreprise via un mode de fonctionnement externe et via des centres de réflexion externes.
Donc toi, comme tu le disais, avec ton expérience en Irlande, avec cette superbe expérience dans la bière, l'agroalimentaire, pour toi, ça a toujours été ton objectif. En fait, cette boîte, tu l'aurais vue pour aucun autre domaine.
Bah, c'est des services que tout le monde peut faire dans n'importe quel domaine, mais c'est juste que l'agro, ça me parle parce que j'ai grandi dans le Morvan, j'ai un père expert comptable dont la plupart des clients sont des restaurateurs, et ma mère a une espèce de resto. Du coup, j'ai toujours été dans ce côté, on mange bien, on boit bien, on vit bien. Et c'est vraiment le côté convivialité, partage de l'agro que j'aime bien. Alors, c'est pas Danone, hein. globalement. Mais le fait qu'on partage des moments positifs et aider des gens qui permettent à d'autres personnes de passer des bons moments, ça me fait vraiment kiffer, quoi.
Ouais, finalement, en fait, ça lie tout ce que tu aimes, c'est-à-dire à la fois la bonne bouffe et la bonne production, et en plus, aider les autres aussi à pouvoir se développer, en fait. Ça lie tes passions.
C'est vraiment ça. Tout à fait.
Et pourquoi tu penses que c'est pendant le confinement qu'elle s'est cristallisée, cette idée? Enfin, qu'est-ce qui a été...
Je pense que le fait de rentrer chez moi et de me poser, de retrouver des petites habitudes de vie familiale, c'est assez régressif, hein, clairement. Mais c'est un vrai côté positif parce qu'on se rappelle ce qu'on aime dans la vie, voir ses proches, voir sa famille, passer des bons moments avec ses amis. Et en fait, ça a cristallisé ça parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'être à 100% dans ce côté-là de ma vie. Et j'osais jamais vraiment. Et puis là, avec le manque que ça crée, parce qu'on est isolé à cause du confinement, je me suis dit, bon, bah, autant se lancer là-dedans. Parce qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence.
Bien sûr. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement pour que ça se concrétise? Est-ce que tu as commencé à faire genre ton business plan, ce genre de choses et tout?
Alors, j'ai fait toute la partie un peu chiante de quand on monte une entreprise. Donc, le business plan, le business model.
L'étude de marché.
Les études de marché, savoir quels sont les statuts qu'on va poser, réfléchir à un site internet, réfléchir à sa com, appeler à peu près la terre entière pour savoir si c'est une bonne idée et qu'on ne se trompe pas. donc, tout ça. Et non, ça a pris pas mal de temps. En vrai, on a été confinés, quoi, 2 mois et demi?
Ouais, 2 mois.
2 mois. On va dire le premier mois, vraiment, je me suis reposée. J'ai lu beaucoup de livres, notamment les livres de Mike Horn,
ouais,
sur les explorations, tout ça. J'ai vu plein de vidéos d'explorateurs, de gens qui avaient été visionnaires, les manifestes de la Société française des explorateurs, tout ça.
Génial. Je savais même pas que ça existait, comment ça se fait.
C'est trop bien. Ils sont géniaux, ces gens. Et du coup, tout ce côté un peu exploration qui va à la fois dans l'exploration du monde, mais dans l'exploration de soi aussi. Mmh. Et je me suis vraiment intéressée à tous ces gens-là et inspirée. J'ai construit mon offre de service pour Guava & Co. Mmh. Et la deuxième partie du confinement, j'ai commencé un peu à passer à l'action, donc à faire un logo et là, à faire les business plans, tout le modèle économique, etc. Et puis depuis la fin du confinement, on commence à poser des petites briques petit à petit.
Et justement, on va en parler. Où est-ce que ça en est, ton projet, maintenant, à un moment où on parle, 2 semaines après le déconfinement ?
2 semaines après le déconfinement, j'ai l'impression que ça fait 1 mois qu'on est déconfiné.
Ah, c'est fou. Cette année est vraiment très bizarre.
Ce monde n'a plus de sens.
C'est clair.
Où est-ce qu'on en est ? Alors déjà, on a un logo, c'est pas mal.
Et du coup, vous êtes plusieurs ou tu es... Parce que tu dis « on ».
Alors, c'est parce que j'ai plein de copains qui m'aident.
D'accord.
Du coup, c'est pour ça que je dis « on ». Mais c'est sûr, tout le monde. Et non, le logo est prêt, les statuts sont prêts à être déposés, le site internet est en construction, le business plan est finalisé, on cherche des partenaires. Globalement, on est au milieu de tout le bordel qui constitue la création de l'entreprise.
Et pareil, une question qui n'était pas sur l'affiche, mais t'as pas eu peur une seule fois en construisant tout ça pendant le confinement et
Ah
tout
si, j'ai peur, mais tous les jours.
Ouais.
Et vraiment, j'ai peur... Là, en venant ici, je marchais et il y a quelqu'un qui m'appelle par rapport à mon idée de boîte et je décroche et là je me dis en fait je fais une connerie finie, je devrais juste lui dire que c'est pas vrai, que j'arrête tout. Et même en venant ici, je me disais Marie, tu vas quand même parler de ta boîte, tout ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors la propension à se dire qu'il faut tout arrêter est moins forte que la propension à avoir envie de se lancer. Mais elle est persistante.
Ton instinct, il te dit de faire quoi ? Parce qu'avec Sophie, on est très instinct. On a parlé dans l'épisode de Léa Bordier. Moi, je suis une meuf très instinctive aussi, Sophie aussi. Toi, est-ce que comme tu le dis, l'envie de créer est plus forte que les peurs. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une part d'instinct aussi qui te dit, mais fais-le ?
Il y a une part d'instinct. Et puis, ça fait un peu spirituel tout ça de parler de ça, mais... Il y a ce côté, parfois, il y a des signes qui nous poussent à...
Je crois, je suis très signe aussi.
Dans telle ou telle direction. Et le fait que je postule pour une boîte, donc je vais encore à contresens de ce que je ressens en me disant « Ok Marie, il faut retrouver un CDI là, calmons-nous. » Et que la déléguée, alors que c'était une boîte qui est rurale, donc ça n'a rien à voir avec un côté freelancer, Startup Nation. Et la nana elle-même me dit « Bon Marie, moi je veux bosser avec vous, pas tout de suite. » Parce que là, on a d'autres choses à faire. Mais après, je garde votre numéro, m'oubliez pas. Et puis, faites vos trucs à votre manière, parce que vous êtes bonne là-dedans. Et là, tu te dis, mais c'est le destin.
C'est ça. Si même quelqu'un qui ne te connaît pas...
Ouais, et c'est... qui avait vu ça dans ma personnalité, sans jugement, juste avec une façon hyper positive de voir les choses. Et en fait, bah oui, l'instinct, je pense qu'il prend,
il prend le
dessus. Et puis, quand on regarde tous ces vidéos et ces discours et ces témoignages de ces aventuriers du monde, ils parlent tous d'instinct et de ce moment où ils ont claqué une porte, ils ont dit non mais là j'allais en fait, je prenais une mauvaise direction, là je vais dans l'autre. Et je pense qu'il faut aussi s'inspirer de ces gens-là qui ont réussi et qu'entreprendre, bah, comme vous les filles vous faites, c'est aussi accepter que parfois tu te plantes et c'est pas si grave.
C'est ça.
Le monde ne s'arrête pas de tourner.
C'est ce que j'avais dit à mon copain quand je me suis lancée en freelance. Je me suis dit, j'ai peur, mais au pire, je me plante et c'est pas grave, j'aurais tenté.
Ouais, exactement.
Donc c'est...
Et il vaut mieux avoir des remords que des regrets.
Comme on dit, exactement. Et du coup, est-ce que le déconfinement, il a changé quelque chose pour la mise en place de ton projet ou ça a accéléré les choses ?
Alors, ça a accéléré les choses. Dans les faits, je suis pas sûre. dans ma tête, oui.
Ouais.
C'est parce que dans les faits, j'ai encore plein de choses à faire que j'ai pas faites. Mais dans ma tête, de me dire ok, c'est bon, on va avancer, puis d'être revenue à Paris, de revoir mes amis, etc., de voir ma famille, d'en parler, ça reprend une activité et un cycle de travail qui fait que.
Il y a un nouveau souffle, quoi.
Exactement, ça devient concret. Et puis on ose plus et on se dit ok, on va appeler telle personne. Enfin, la vision se met en opération.
C'est pas juste un mirage au loin, tu te rapproches de plus en plus de.
C'est ça. Mais je trouve ça super positif. Et il y a plein d'entrepreneurs qui font des discours là-dessus. C'est que le fait qu'on monte une boîte, il faut prendre le temps de réfléchir. Et quand on voit, bon, c'est, on va parler des fondateurs de Facebook ou de Google, en fait, c'est des idées qu'ils avaient depuis hyper longtemps, qu'ils avaient peaufiné un peu, puis finalement ça a marché. Et en fait, je pense que ce temps de confinement pour réfléchir à ma boîte, c'est un cadeau du ciel. Quoi. Ouais, enfin, c'est génial. J'ai pu prendre le temps avant de me lancer.
C'est génial. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver Gova & Co? Est-ce que ce sera... Alors, moi, c'est une question. Est-ce que ce sera plutôt une boîte physique? Est-ce que c'est un... tu vas ouvrir ton cabinet et tu vas... Ou ce sera plutôt digitalisé au départ?
Alors, l'idée, c'est que le côté physique, ça va être moi. Donc, l'idée, c'est d'aller rencontrer les gens un peu partout et de discuter avec eux et de voir comment on peut travailler ensemble. Mm-hmm. Ou de voir, s'ils n'ont pas besoin de moi, comment ils peuvent travailler avec d'autres gens. Hein, parce que l'idée, c'est quand même d'aider les autres et, et d'être dans une mouvance positive et d'avoir un impact positif, même si ce n'est pas par Gova & Co. Il y a plein d'acteurs formidables dans ce pays qui sauront aider les acteurs de l'agro. Et le côté physique, alors, normalement, si tout va bien, on va s'installer à Dijon. Mm-hmm. Et avoir des bureaux, ça, Dieu sait où, c'est pas encore organisé. Et où est-ce qu'on peut nous retrouver? On a une petite page Instagram.
Okay. Et du coup, on vous mettra, parce que là, pour l'instant, petit aparté, mais Marie n'a pas encore créé la page Instagram, mais nous allons vous mettre, une fois que ce sera sorti, le lien vers la page Instagram. Et bien, écoute, Marie, on te souhaite absolument tout le bonheur du monde et plein de réussite à Gova & Co. Et puis, t'hésites pas surtout à revenir nous voir. On pourra refaire un petit déclic pour parler de la suite de ton projet.
C'est super gentil, en tout cas, merci beaucoup. Et vraiment, l'idée de Gova & Co, c'est de travailler avec des gens positifs. Et du coup, je suis trop contente de vous avoir rencontré, les filles.
Et bien, nous aussi, je te remercie beaucoup. À très vite.
À très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Déclic. Si vous aimez 18h17 Productions, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou à nous suivre sur les réseaux sociaux @18h17productions. N'hésitez pas également à aller écouter nos autres podcasts, La Chanson et l'Apéro, que vous pouvez retrouver sur toutes les applications d'écoute. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.